La semaine qui s'ouvre s'annonce tout à fait explosive dans la zone euro. Impensable il y a encore quelques temps, ce scénario d'une sortie grecque de l'Union monétaire est désormais dans tous les esprits. Et pour tenter d'éviter cette issue, hier, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, n'a pas hésité à appeler les Grecs directement. Appeler les Grecs à un vote pro-européen lors du référendum de dimanche prochain. Appeler les Grecs à voter contre son gouvernement, contre leur gouvernement. Alors, démarche salutaire ou ingérence inacceptable, notre invité ce matin est Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous jusqu'à 8h, Yves Bertoncini. Jean-Claude Juncker, qui s'est engagé, voilà, personnellement dans le dossier hier, qui est entré dans la campagne en quelque sorte en appelant les Grecs à voter oui. S'agit-il d'une ingérence, comme l'ont dit certains, à commencer par les Grecs eux-mêmes, ou d'une intervention légitime du gardien des traités ?
Je dirais les deux. On est dans une union monétaire, donc dans des pays de l'union monétaire, 19, il y a une forme d'intégration très poussée, une interdépendance économique, financière, mais aussi politique et électorale. Et du coup, de plus en plus, on voit au sein de cette union monétaire des chefs d'État et de gouvernement, ou en l'occurrence des responsables européens, indiquer leurs préférences au moment de telle ou telle consultation. Il s'agit là d'un référendum, pas n'importe lequel, de surcroît. Et donc, il est légitime que Jean-Claude Juncker le fasse. Je ne sais pas si, en revanche, ça sera productif ou contre-productif.
Oui, est-ce que vous le comprenez, M. Juncker, quand il dit s'être lui-même senti trahi et déçu par cette annonce de référendum ? Il prend les choses personnellement, c'est compréhensible, ça ?
Alors ça, en revanche, je trouve, d'une manière générale, au-delà de Jean-Claude Juncker, que les négociations et les tensions prennent une dimension un tout petit peu juvénile, avec tout le respect qu'on doit à ces hauts personnages. Le côté « j'avais confiance, tu m'as trahi »,« c'est pas toi qui dis la vérité, c'est moi », ça a fait, je dirais, descendre le débat à des niveaux qui ne sont pas en ligne avec la nature des enjeux. Parce que là, on parle quand même de quelque chose de très important, c'est-à-dire l'avenir de la Grèce, mais aussi l'avenir de l'Union monétaire.
Oui, juvénile ou puéril, on pourrait utiliser ce mot-là aussi, vous êtes d'accord ?
Exactement. Je dirais que c'est compréhensible au sens où Jean-Claude Juncker, notamment, s'est très fortement engagé, et pas seulement depuis un an, depuis qu'il était président de l'Eurogroupe, en faveur de la Grèce. Je crois que, et les Grecs le savent, il y a d'autres acteurs politiques en Europe qui font preuve de moins de compréhension à l'égard de la Grèce. Jean-Claude Juncker a toujours essayé, avec ses moyens, de plaider pour une solution raisonnable. Et du coup, puisqu'il a essayé aussi, en se forçant un peu sa nature peut-être, d'être conciliant avec Alexis Tsipras, bon là il est un peu déçu du résultat. Je crois que plus globalement, au-delà de Jean-Claude Juncker, le problème, c'est que toutes ces négociations ont été conduites à un niveau trop technique. On s'est trop défaussé sur les ministres des Finances, les comptables, le FMI, et qu'il aurait fallu, tout du long, les maintenir à un haut niveau politique.
Oui, c'est très intéressant là, ce que vous dites, Yves Bertoncini. On a laissé, au fait, trop de pouvoir aux créanciers dans ce dossier, et ce maintien de la Grèce dans la zone euro et dans l'Union européenne aussi, allons-y, n'a été jusqu'à présent qu'une affaire de ministre des Finances et de banquier central, alors que c'est tout autre chose dont il s'agit. C'est une question purement politique ou beaucoup plus politique que financière, selon vous, c'est ça ?
Absolument, parce que, écoutez, si on regarde les choses du point de vue financier, la Grèce, c'est 2% à peine du PIB de l'Union européenne, ce n'est rien du tout. Les sommes en jeu sont des sommes assez petites du point de vue européen. Elles sont colossales pour la Grèce. La Grèce a aujourd'hui une dette qui est colossale et qu'il faudra d'ailleurs sans doute réduire en partie. Mais c'est une affaire de principe. Et donc, évidemment, il est important que des principes soient affirmés, des principes politiques. Par exemple, le principe selon lequel on ne peut pas déverser de l'aide à la Grèce comme dans un tonneau des Danaïdes sans fond ni forme. Bien sûr qu'il y a un souci légitime des créanciers, qu'ils soient européens ou même FMI, dans ce dossier. Mais le problème n'est pas celui-ci. Le problème plus large, c'est que se joue là l'avenir d'un pays qui, même s'il était amené à faire défaut, même s'il était amené à sortir de la zone euro, ne va pas se décrocher du train européen. La Grèce va rester sur le continent européen. Et il n'est dans l'intérêt de personne que la crise se développe, s'approfondisse et même que le chaos s'installe en Grèce. Et pour traiter cela, il ne faut pas. D'un côté, Marx au Parthénon, si je puis dire, et de l'autre côté, le FMI à Bruxelles. Non, il faut des chefs d'État et de gouvernement, il faut que les dieux de l'Olympe, eh ben justement, descendent de leur Olympe et se mêlent de traiter ces affaires-là.
Alors pourquoi en a-t-on fait un dossier ou un sujet purement financier, l'affaire de quelques créanciers, de cette fameuse Troïka, etc. Et au fond, qui a eu intérêt à ce que ça ne soit pas d'abord un enjeu politique ?
Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. Je crois d'abord il y a la présence du FMI, puisque quand il faut toujours le rappeler, quand les Européens ont dû aider la Grèce, pas seulement la Grèce d'ailleurs, hein, l'Irlande, le Portugal et Chypre, ils n'étaient pas équipés pour le faire. C'est important à rappeler, parce qu'en fait, ils n'étaient pas équipés parce qu'il était exclu qu'ils le fassent. Hein. Les traités européens disaient « no bailout » en mauvais français, c'est-à-dire que si un pays fait faillite, il se débrouille. C'était pour éviter que les pays, entre guillemets, soient incités à faire faillite. Oui. Bon, donc no bailout. On sollicite le FMI pour sa technicité dans les programmes d'aide qui sont octroyés à la Grèce. Le FMI est là, et donc à partir du moment où le FMI est là, et que c'est un acteur incontournable, il faut prendre en compte la logique du FMI, qui est une logique technique et comptable, avant tout. Mais pas là seulement une logique politique.
Mais là, les dirigeants politiques de l'Union européenne ont laissé faire le FMI. Alors, se sont retranchés derrière le FMI. Alors, quel est leur intérêt à avoir procédé de la sorte ? Masquer leur propre impuissance, peut-être ?
Là, on arrive à la partie européenne. Bon, on se retranche derrière le FMI, d'abord pour des raisons liées à son expertise technique. Je crois qu'il y a aussi une autre raison, qui est que, notamment en Allemagne, pas seulement, mais notamment en Allemagne, il y a cette idée que, de toute façon, la monnaie est quelque chose qu'il faut laisser aux techniciens et aux experts, que c'est à ce niveau-là que les choses doivent se régler. Ça, c'est lié à la culture allemande, hein, qui d'ailleurs avait une tradition de banque centrale indépendante depuis très longtemps, ce qui n'était par exemple pas le cas en France. Il y a aussi ce greffe sur ce point culturel, je dirais, des éléments liés à la façon dont la coalition allemande au pouvoir est constituée aujourd'hui, avec le rôle très important que joue Wolfgang Schäuble vis-à-vis de la chancelière, et puis aussi évidemment, in fine, la prise en compte des opinions publiques. Les opinions publiques qui, en Allemagne, mais pas seulement, dans d'autres pays, ne sont pas très convaincus par cette idée d'aider la Grèce, en tout cas de manière durable et sans résultat. Et donc, il y a une tendance à vouloir dépolitiser le choix qui devrait être fait au niveau des chefs d'État et de gouvernement.
Et là, le fait que M. Juncker se mêle personnellement de cette campagne et de ce débat, c'est bon signe selon vous ? Ça veut dire que les politiques reprennent la main, reprennent le leadership ?
À son niveau, à lui. Parce que lui, il est président de la Commission européenne et donc porteur de l'intérêt général européen. Vous avez dit gardien des traités, mais aussi au-delà, politiquement, porteur de l'intérêt général européen. J'ai noté que d'autres chefs d'État et de gouvernement, et ça sera beaucoup plus décisif, étaient en train de s'exprimer, notamment Matteo Renzi, qui, dans son style, avec un tweet, a bien indiqué ce que pour lui... serait l'enjeu du référendum, c'est-à-dire non pas commission contre Tsipras, mais drachme contre euro. Et donc il est important effectivement quand même que les chefs d'État et de gouvernement disent leurs sentiments. Pourquoi ? Parce que ça permet, au-delà des institutions européennes, de rappeler que ce qui est en jeu là, dans cette union monétaire de 19 pays, c'est de faire coexister 19 démocraties nationales. C'est-à-dire que les élections grecques, le référendum grec, qui sont tout à fait évidemment naturels et légitimes, vont dégager un verdict, mais qui ne peut pas s'imposer comme tel à la légitimité représentée par les autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, Matteo Renzi, Madame Merkel, Monsieur Hollande, etc., etc. Et donc, si ces chefs d'État s'expriment, ça aura le mérite de rappeler ça, même s'il faut sans doute qu'ils s'expriment de manière très prudente pour ne pas donner l'impression de forcer la main du peuple grec.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment, alors là, marcher sur des œufs, en l'occurrence. Et Yves Bertoncini, si c'est non au référendum, non aux mesures d'austérité européennes, le soir du 5 juillet en Grèce, vous pensez que ce non serait circonscrit à la seule Grèce ou il pourrait faire tache d'huile et voilà, il y a l'effet d'entraînement pour d'autres pays. C'est une question qu'on a déjà beaucoup posée, mais là, elle se pose avec encore plus d'acuité. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je crois que ça, c'est la vision messianique d'Alexis Tsipras, c'est-à-dire d'être à l'avant-garde d'un combat européen, voire même international. On reconnaît bien la formation politique hein, auquel il appartient. Je crois que c'est d'ailleurs une profonde erreur. Hein. Si M. Tsipras avait nationalisé son combat, c'est-à-dire insisté sur les mots de la Grèce, les difficultés structurelles de ce pays, s'il avait insisté davantage sur le fait que, après tout, les 40 dernières années de la Grèce, c'est pas lui qui en est responsable, c'est les partis avec lesquels il prétend rompre, le PASOK et Nouvelle Démocratie, là, il aurait trouvé un plein soutien des capitales européennes. Il a choisi d'européaniser, voire d'internationaliser son combat. Il pense que le nom grec donnerait naissance à d'autres noms et à d'autres révoltes.
Bon, on voit des petits foyers, pardonnez-moi, du côté de l'Espagne quand même,
avec on voit bien.
Certains indignés être nommés maire de certaines villes.
Voilà.
On a vu ça, donc il n'a pas totalement tort sur le fond, là, monsieur Tsipras.
On voit que vous maîtrisez le vocabulaire marxiste, les foyers, c'est exactement la façon dont on employait...
Je reste objectif en principe.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le disait en Amérique du Sud, notamment Che Guevara a allumé des foyers un peu partout. Oui. Non, il est vrai qu'en Espagne, les conditions objectives, on reste sur le vocabulaire consacré, sont réunies, en effet, en Espagne. Mais au-delà de l'Espagne, en réalité, ce qu'on voit en Europe, c'est plutôt la montée de forces eurosceptiques, voire europhobes, y compris parce qu'elles en ont marre de cette solidarité qui a dû être octroyée à des pays comme la Grèce sans résultat visible.
Alors donc, là, il se trompe, M. Tsipras, effectivement, pour le coup.
Eh oui, regardez, il faut regarder partout. Il n'y a pas que les élections en Espagne. D'ailleurs, si vous regardez les élections à côté, parce que le Portugal était un pays sous programme, le Portugal, si on regarde les élections telles qu'elles se présentent, il n'y a pas de poussée de gauche radicale massive. En tout cas, il n'y a pas de victoire attendue de la gauche radicale. Et si on regarde, alors ailleurs en Europe, si on regarde les dernières élections au Danemark, les dernières élections en Finlande, notamment, parce que la Finlande est dans l'Union monétaire, les élections en Europe centrale et orientale, il n'y a pas de poussée radicale à gauche. Il y a malheureusement, je dirais, plutôt une poussée radicale à droite et à l'extrême droite. Et donc, c'est un peu une fable que se raconte Alexis Tsipras. Je crois donc, pour revenir à un peu plus de raison, que si déjà, il obtenait avec un nom, qui n'est pas certain, mais avec un nom, les capacités de renégocier à son avantage les conditions de l'accord a signé entre l'Union européenne et la Grèce, eh bien, il aurait déjà obtenu un résultat tangible et satisfaisant pour lui, au-delà de ce qui pourrait se passer ensuite dans la péninsule ibérique ou ailleurs.
Juste un commentaire avant d'aborder la presse suisse, au roman des Alémaniques, Yves Bertoncini, qui d'ailleurs nous ramènera en premier lieu à la Grèce, sur cette actualité, cette dépêche qui est tombée cette nuit, cette proposition de la dernière chance, qui émane précisément de M. Juncker, pour peu que le gouvernement de Tsipras s'engage par écrit à accepter la dernière version de la proposition dite des institutions, donc celle qui a été rendue publique dimanche par la Commission, à mener campagne pour les faire accepter lors du référendum dimanche prochain. Si M. Tsipras l'accepte, les ministres des Finances de la zone euro pourraient se réunir en urgence aujourd'hui même et adopter une déclaration qui réaffirmerait leurs engagements pris en 2012. Et comment comprendre cette proposition de la dernière chance? Au fond, M. Juncker demande à M. Tsipras de complètement retourner sa veste. Là. Est-ce qu'on rêve ou est-ce que c'est vrai ce qui se passe?
Oui,
là
ou on cauchemarde. Jean-Claude Juncker ne voulait pas jouer les prolongations. Il avait dit, il y a une date butoir, le 30 juin, on ne jouera pas les prolongations.
Là, il le fait, visiblement.
Et en fait, visiblement, non, parce qu'il veut encore éviter les prolongations, parce que la date butoir, c'est le 30 juin. Pourquoi? Parce que la Grèce doit rembourser un prêt d'un peu plus d'un milliard et demi au FMI. La vraie date butoir, ça sera plutôt le 20 juillet, quand la Grèce devra rembourser à la Banque Centrale Européenne plus de 3 milliards d'euros. On va voir si la Grèce est en capacité de rembourser le FMI, sinon elle ne le fera pas et il y aura un incident de paiement. Mais je crois que, de toute façon, maintenant que ce référendum a été convoqué et qu'il devrait se tenir, rien n'est réellement possible d'ici là. Si quelque chose advient, tant mieux, mais espérer que M. Tsipras change les termes du référendum d'un point de vue formel, ça me paraît un peu difficile. En revanche, étant donné que la question posée est assez baroque, puisqu'en réalité, elle porte sur un texte qui n'existe pas vraiment et qui n'était pas la dernière version, sans doute M. Juncker insiste-t-il pour essayer de changer les termes du débat et au fond de faire du choix grec un choix un peu plus acceptable en faveur d'un oui, c'est-à-dire un oui aux propositions virtuelles que serait prête à faire l'Union européenne et les créanciers de la Grèce, et puis au-delà de ça, un oui à l'Union monétaire et à l'Union européenne, parce que Jean-Claude Juncker est bien placé pour savoir qu'une sortie de la Grèce de la zone euro serait évidemment très mauvaise pour la Grèce, mais pas bonne du tout pour l'Union européenne.
Yves Bertoncini, vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors de Paris. La presse, donc, comme promis, avec la presse romande. Simon Corté, vous êtes avec nous. La Grèce exaspère les Bulgares.
Oui, une correspondance de Sofia dans le journal Le Temps raconte comment les journalistes bulgares, pourtant coutumiers des coups de gueule de leur premier ministre, sont restés bouche bée devant les déclarations de Boyko Borisov. C'était il y a 5 jours à Bruxelles, lors du dernier sommet européen. Arrêtons de perdre du temps sur la Grèce, cela fait des années que cela dure. Que les Grecs fassent leurs réformes et qu'ils en assument les conséquences, tonne le chef du gouvernement bulgare, avant d'expliquer « Nous aussi, nous voulons donner plus pour les salaires et les retraites, qui ne le voudraient pas ?» L'exaspération de Boyko Borisov éclate encore dans cette question. Pourquoi ce sommet n'est pas consacré au développement au nord-ouest de la Bulgarie? Car c'est bien là-bas et non pas en Grèce que vivent les ressortissants les plus pauvres de l'Union européenne.
Les Grecs seraient entre guillemets des gens qui pleurent pour peu de choses, alors que les Bulgares sont beaucoup moins bien lotis. Vous comprenez cette position bulgare, Yves Bertoncini?
Oui, c'est très révélateur d'une réalité politique que les Grecs n'intègrent pas suffisamment. C'est-à-dire que dans l'Union monétaire, bon, c'est pas le cas de la Bulgarie, mais dans l'Union monétaire, il y a des pays, comme la Slovaquie, les Pays-Baltes, des pays, la Slovénie, dans lesquels le niveau de vie est plus bas qu'en Grèce. Et pourtant, ces pays ont dû aider la Grèce. Donc, ils l'ont fait parce que c'était leur intérêt, naturellement. Ce n'est pas de la solidarité des intéressés. Ils sont un peu fait forcer la main aussi, il faut bien le dire. Mais ces pays sont donc d'autant plus sourcilleux vis-à-vis de ce qui est fait de leur aide. Et c'est vrai qu'ils peuvent être, eux, pas seulement les rigides et riches Allemands, vous voyez, eux aussi être un peu dubitatifs, sinon exaspérés, par la façon dont la crise grecque est interminable et ne trouve pas de voie de sortie.
Difficile de refaire l'histoire, mais est-ce que la situation serait différente aujourd'hui, 30 juin 2015, si ce n'était pas un gouvernement d'extrême-gauche, qualifions-le comme ça, comme celui de M. Tsipras qui avait été nommé?
Ah oui, la situation serait différente parce qu'un gouvernement d'extrême-gauche est dans une culture radicale de la confrontation, alors qu'au niveau européen, ce qui prévaut, c'est une culture du compromis et du consensus. Mais en même temps, tout ça est aussi une responsabilité de l'Union européenne, en plus d'être une responsabilité des autorités grecques précédentes. Il fallait régler cette crise de manière beaucoup plus énergique et rapide. Et maintenant, le gouvernement de Tsipras est totalement légitime pour conduire les négociations au nom de son peuple.
La Suisse et l'Union européenne, autre dossier, Patrick Chaboudet, c'est dans la presse alémanique. La Suisse va nommer un super négociateur pour tenter de sortir de l'impasse dans les relations entre Berne et Bruxelles.
Oui, des relations rendues compliquées après le vote du 9 février 2014 contre l'immigration de masse, et c'est tout simplement pas compatible selon Bruxelles avec le principe de la libre circulation. Pour ses relations avec Bruxelles, le Conseil fédéral a besoin d'un plan B, constate le Tagesanzeiger. Avec un super négociateur, Berne fait désormais le lien entre les différents thèmes épineux, la libre circulation bien sûr, mais aussi les questions institutionnelles comme l'accord sur l'électricité et la fiscalité des entreprises. Mais pour le quotidien, la clé du compromis ne se trouve pas à Bruxelles, mais dans des négociations directes avec les chefs d'État et de gouvernement à Berlin, Paris, Rome et Vienne.
Yves Bertoncini, j'imagine que vous suivez aussi ce dossier Berne-Bruxelles, la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne et qui n'en a jamais été aussi loin, serait-on tenté de dire. Est-ce que là, nommer un super négociateur, un seul interlocuteur pour Bruxelles de la part de la Suisse, ce serait un bon moyen de débloquer certains dossiers?
Oh, ça peut certainement aider, même si la difficulté pour la Suisse, c'est que c'est un peu la même chose que pour la Grèce, hein, d'une certaine manière. L'Union européenne n'est pas demandeuse. L'Union européenne n'était pas demandeuse du référendum de février 2014. Elle doit faire évidemment avec le résultat. Mais même si elle a intérêt, in fine, à ce que les bonnes relations avec la Suisse soient maintenues, qu'il y ait une fluidité des échanges à tout niveau, économique, humain, elle n'est pas demandeuse. Donc ça place la Suisse dans une situation particulière, qui n'est pas une situation de force, d'autant plus que le cœur de la renégociation, c'est-à-dire ces enjeux de libre circulation des personnes, est traité à Bruxelles avec évidemment un regard sur la Suisse, mais aussi un regard sur l'Europe tout entière. Et c'est, comme vous le savez, un sujet très inflammable aujourd'hui en Europe, pas seulement en Suisse, au Royaume-Uni notamment. Et donc ça complique un tout petit peu plus encore la marge de manœuvre des autorités européennes, y compris si elles veulent faire preuve d'une grande bonne volonté vis-à-vis de leurs voisins suisses.
Ouais, les Suisses qui ne seraient pas en position de qui ne seraient pas tant que ça en position de faiblesse par rapport à Bruxelles, en ce qui concerne la libre circulation, par les temps qui courent. Yves Bertoncini, vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Je dirais que c'est compliqué de là aussi d'européaniser le cas suisse. Le cas suisse est très atypique, d'abord en termes de proportion d'Européens et d'étrangers en Suisse. Hein. C'est quand même presque un quart de la population. La moyenne européenne, c'est 6%. Donc on est vraiment sur des proportions particulières. Simplement, puisqu'il s'agit là d'un vote sur la libre circulation des Européens, on touche au cœur des principes de la construction européenne qui sont hérités du traité de Rome, et c'est très difficile de revenir sur ces principes. Alors c'est possible quand on n'est pas membre à part entière de l'Union européenne, comme c'est le cas de la Suisse. Simplement, ce n'est pas possible sans contrepartie. On ne peut pas avoir tous les droits sans aucun devoir, et donc forcément il y aura un prix à payer que les Suisses sont peut-être prêts à payer, que les Européens sont aussi peut-être prêts à payer pour maintenir leur bonne relation avec la Suisse. Mais je ne dirais quand même pas que la Suisse est en position de force dans ce dossier.
On revient vers la France, c'est dans la presse romande, Simon Corté, la France qui risque maintenant un attentat à la voiture piégée.
La menace sort de la bouche d'Alain Marceau, un ancien juge qui a dirigé à Paris le service central de lutte antiterroriste. Dans la tribune des 24 heures, ce député du Parti républicain estime que l'État islamique n'a pas commandité l'agression de la région lyonnaise, ni d'ailleurs l'attentat de la mosquée au Koweït le même jour. Les terroristes du groupe revendiquent certains attentats par opportunisme, dit-il, si on tient compte du phénomène d'imitation chez les auteurs après la décapitation de vendredi dernier. Le prochain stade sera l'attentat à la voiture piégée, prévoit donc l'ancien juge. « Vos propos sont inquiétants », s'exclame le journaliste. « Oui », répond Alain Marceau, « nous sommes entrés dans une période de grande violence. Nous avions connu jusqu'à maintenant un terrorisme politique d'État. » Pour abaisser la menace, il suffisait d'entrer en contact avec le sponsor du mouvement, de négocier et de faire pression. Aujourd'hui, nous ne savons même pas à qui nous adresser.
D'accord avec ce constat plutôt inquiétant, Yves Bertoncini.
Oui, en effet, je crois qu'on est entré dans une guerre de 30 ans, au moins, qui n'a pas débuté récemment, hein, d'ailleurs, on peut la dater depuis septembre 2001. Et que ça va être une guerre très difficile à conduire parce qu'elle est sans front, avec des ennemis qui ne sont pas innombrables, bien sûr, mais qui sont situés un peu partout autour de nous et, dans certains cas, sur le territoire de l'Union européenne. Donc c'est une guerre à conduire avec toute la détermination nécessaire. Et c'est aussi une guerre face à laquelle l'Union, et pour le coup l'Union européenne, peut faire la force.
Alors lui disait qu'il fallait terroriser les terroristes, c'est une figure de la vie politique française qui disparaît, Patrick Chaboudet, Charles Pasqua qui est décédé hier, son portrait dans Libération.
Oui, avec ce titre provoquant dans le journal à Le Secret, Charles Pasqua, toute affaire cessante. Alors c'était un dinosaure de la vie politique française, l'un des derniers centurions du gaullisme historique, un homme de l'ombre qui avait commencé à œuvrer dans la police parallèle du SAC, le service d'action civique, la police privée du gaullisme, avant de devenir le premier flic de France au service de Jacques Chirac. Charles Pasqua avait connu les honneurs de la République avant de se retirer de la vie politique en 2011, rattrapé par l'âge et les affaires en série.
Alors on doit se quitter dans une vingtaine de secondes. Yves Bertoncini, souhaitez-vous faire un dernier commentaire sur la personne de Charles Pasqua peut-être ?
Oh, je dirais qu'il repose en paix, que simplement c'était un patriote et que, à mon avis, c'est tout à fait compatible absolument d'être à la fois patriote et européen.
C'était un européen, Charles Pasqua ?
Je pense que lui opposait davantage ces deux notions. Notre président fondateur, Jacques Delors, évoque la fédération d'États-nations et ça montre bien qu'on peut être passionnément patriote et passionnément européen.
Merci beaucoup.
Ce que n'était pas Charles Pasqua.
Ce que n'était pas Charles Pasqua, on a bien compris dans vos propos. Yves Bertoncini, merci beaucoup donc d'avoir été notre invité à Paris. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Bonne journée.